sol majeur.
Sol majeur.
Sol majeur.
Yasmine Chouaki.
C'est une voix qui jazz de façon singulière dans le roman français. Leonora Miano, repérée depuis Contour du jour qui vient, Goncourt des lycéens en 2006. Cette française née à Douala, mais peut-être que je devrais dire cette camerounaise installée en France, on verra ça. Leonora Miano donc tricote dans sa trilogie africaine le pourtour du monde noir et de ses tourments. Après tel désastre éteint consacré aux Afropéens, voici que les Aubes écarlates chez Plon donnent la parole à Epa. Cet enfant soldat enrôlé de force par des troupes rebelles dans une Afrique imaginaire, quoique. Au début du roman, le narrateur suit Epa, enfant soldat donc qui a réussi à s'échapper et qui raconte son destin de rescapé. Une fois de plus, il songea aux autres, à ses frères encore captifs. C'était pour eux qu'il s'était échappé, pas uniquement parce qu'il ne voulait plus jamais toucher une arme de sa vie. Il y avait tout juste quelques mois, porter une mitraillette faisait partie de son grand rêve. Aujourd'hui, tout avait changé. Sa tête résonnait de hurlements, des cadavres peuplaient son sommeil. Lorsqu'il était éveillé, des figures défilaient sous ses yeux, implorant la grâce, n'osant implorer quelquefois. Les visages innocents de pauvres gens, pas tellement mieux lotis que lui. Jamais il n'avait aperçu l'un des officiers de ce régime qu'il voulait combattre. L'occasion de malmener un ministre ne lui avait jamais été offerte. Il avait tant imaginé le jour où on botterait les fesses au président Maouzé. Bonjour, Leonora Miano.
Bonjour.
Je vous remercie pas pour cet extrait que vous m'avez obligé à lire.
Mais je vous en prie.
Donc où l'on apprend que vous détestez vous lire.
Non, je suis pas fan de ma propre œuvre à ce point-là. Et lorsque les textes sont publiés, ils ne m'appartiennent plus. Donc il est bon que les autres les lisent, que ce soit les autres qui choisissent les extraits qui les ont touchés et qui lisent avec leur sensibilité.
Non mais c'est douloureux, vous me le confiez.
Oui, ça m'est très désagréable. J'ai l'impression d'être toute nue et qu'on ne voit que la cellulite ou en tout cas les choses que j'aurais envie de cacher. Lorsque je me lis, je ne vois que les imperfections du texte, j'ai encore envie de corriger, donc c'est jamais fini. Donc c'est aussi la meilleure manière de m'en détacher pour passer au prochain qui sera forcément mieux.
Révéler la cellulite, c'est quand même pas la définition de votre écriture.
Non, mais c'est ce que je sens quand il faut lire. c'est ce que je ressens.
Alors, les Aubes écarlates, donc terrible immersion dans ce qu'on va appeler l'énergie sanguinaire de ces jeunes rebelles livrés à eux-mêmes dans une Afrique peut-être subsaharienne. Est-ce que ce roman et ce cycle romanesque est né, comme souvent chez vous, je crois, d'une question obsessionnelle autour de l'Afrique et de ses démons?
De plusieurs questions, oui. Je suis tombé sur un documentaire sur les enfants de la guerre au Libéria, dans lequel j'ai entendu des témoignages assez troublants et qui questionnaient beaucoup. Et ça m'a ouvert des abîmes de réflexion. Donc effectivement, c'est un peu ça la genèse de cette trilogie. Donc, au début, je voulais pas du tout écrire trois romans. Je voulais écrire un long roman fleuve qui aurait brassé tous les thèmes de ce triptyque. Et Denis Bouchain, qui est mon éditeur chez Plon, mon binôme aussi, mon lecteur privilégié, m'a dit « Écoute, Leonora, tu ne peux pas faire chier tout le monde avec un premier roman de 1000 pages, personne ne le lira. Ce ne serait pas une bonne idée. » Donc j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire.
1000 pages de cellulite, en plus.
Parce que ça aurait fait ça. Hein. Ça aurait fait au moins 1000 pages, je pense. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est apparue l'idée d'un triptyque, un ensemble de textes qui pourraient se lire indépendamment les uns des autres, que je pourrais écrire dans des veines différentes aussi pour ne pas m'ennuyer. Et finalement, je trouve ça très bien.
Est-ce qu'il faut faire un lien entre ce personnage, ce jeune garçon donc, qui s'appelle Epa, qui est arraché à son village et qui va basculer dans un monde qu'on va dire incompréhensible? Est-ce qu'il faut faire ce lien entre cet enfant soldat et l'histoire de la traite négrière?
En tout cas, moi, je le fais. Je crois qu'on peut se permettre ces choses lorsqu'on écrit des romans. Je cherchais le moyen de représenter avec des images empruntées à l'Afrique contemporaine, voilà, représenter des modalités possibles de répétition du passé. Et il me semble que l'expérience des enfants soldats à travers cet arrachement, la dépossession identitaire, la réification, est assez proche de ce qu'ont pu vivre les captifs du passé.
Alors vous racontez l'Afrique du déracinement, l'Afrique du viol, l'Afrique des actes sanguinaires, on l'a dit. Est-ce que vous pensez que la distance géographique qui est la vôtre aujourd'hui, vous êtes installée en France depuis quelques années maintenant, Léonora, vous permet cette non-compromission, cette façon de regarder, de parler à l'Afrique un peu les yeux dans les yeux?
Écoutez, lorsque je vais au Cameroun, la première chose qu'on me dit, c'est « t'as pas changé ». Donc j'étais déjà comme ça, j'ai toujours un peu mis les pieds dans le plat, parce que j'ai un peu mauvais caractère, et que quand je me pose des questions, j'entends bien obtenir une réponse, donc je les pose en termes clairs.
Moi aussi, habituellement.
Donc voilà.
Mais là, je n'ai pas obtenu ma réponse. Hein.
Et je ne pense pas que ce soit dû à la distance. Je crois que le premier matériau des auteurs, comme de tous les artistes, c'est leur sensibilité. Il se trouve que j'ai une sensibilité d'écrivain un peu écorchée qui m'amène à écrire sur des sujets qui, voilà, un peu difficiles, les choses qui me font mal parfois.
Léonora, donc en sol majeur, c'est aussi un programme musical, hein, vous le savez. Et oui, dans lequel
j'ai cru entendre dire ça.
On retrouve des choix qui sont précis, décidés comme vous l'êtes. Il y a par exemple ce Myriam Makeba qui date des années 66 avec Kwaleza. Pourquoi ce choix?
J'aime beaucoup Kwaleza, qui est une chanson qui parle de résistance, de fuite. De fuite. C'est une chanson que, d'après Myriam Makeba, les enfants adressaient à leur mère lorsqu'elles étaient pourchassées par la police du temps de l'apartheid. Et je trouve que cette réalité triste est portée par un rythme et une voix très très chaleureuse. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson.
Myriam Makeba dans le programme en sol majeur de Léonora Miano.
It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza, mama," which simply means, "Hurry, mama, please, please don't let them catch you." Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama, sheshi sawo. Nanga mapoisa zongene njini mama, bati kauleza mama. Nanga mapoisa zongene njini mama, bati sheshi sawo. Jonga, 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 yo kauleza mama, yeah.
Myriam Makeba, qui est très années 60, hein, ce sera peut-être une pépite en sol majeur d'ailleurs. Allez voir sur le blog desamours.blogs.rfi.fr. Et puis c'est dans le programme de notre invitée Léonora Mignano, française d'origine camerounaise, dont le destin de romancière se conjugue au futur, au présent et au passé.
Que savez-vous de vos ancêtres ?
Peu de choses, parce que je viens d'un espace géographique dont l'histoire n'est pas écrite, dont les migrations sont difficiles à remonter, et donc j'en sais finalement assez peu de choses. Je ne connais pas l'histoire de mes arrière-grands-parents. Je connais celle de mes grands-parents, mais pas plus, pas tellement. Je viens aussi d'une famille où on en parlait peu, et d'une famille notamment paternelle où il y a eu des massacres, donc on n'aime pas beaucoup parler de l'origine.
Des massacres ?
Une partie de la famille a été décimée, la famille de mon grand-père paternel, et donc voilà, on ne parle pas beaucoup de ça.
Vous savez dans quelles circonstances ?
C'est assez désagréable. Mes oncles et puis à mon père qui nous a quittés cette année, ça lui était désagréable d'en parler, donc il en disait assez peu. Donc finalement, si on veut vraiment savoir, il va falloir rechercher un peu nous-mêmes.
Et alors, ça vous tente de rechercher vous-même ?
Pas particulièrement, je vis très bien avec ça. Je n'ai pas connu ces gens.
Ces gens ?
Écoutez, je n'ai pas vécu à proximité d'eux, donc ils ne me manquent pas plus que ça.
Oui, non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en termes d'appartenance, ça ne se pose pas comme ça pour vous ?
Non.
Non. Le peu que moi j'en sais, donc je comprends pourquoi j'en sais si peu d'ailleurs, c'est que vous êtes issu d'une famille, dites-vous, atypique et plutôt instruite.
Oui. Du point de vue occidental, en tout cas instruite, je viens de parents qui sont allés à l'école longtemps, ouais. Et mes grands-parents aussi, en tout cas les messieurs. Donc effectivement, oui, j'ai deux grands-pères qui avaient fait des études supérieures et mes parents aussi, ce qui est assez rare chez nous en Afrique noire, et puis même chez certains Français de ma génération, ils n'ont pas des grands-parents qui avaient fait des études supérieures.
Bon, votre grand-père était le premier instituteur de Douala, et puis je ne sais pas si c'est logique, mais votre papa est un atypique aussi, qui écoutait du jazz et qui avait une grande bibliothèque.
Si on parle de mon père, vous parlez de mon grand-père paternel ou maternel ?
Je ne sais pas, je suis perdue, vous ne m'avez rien dit.
Mon grand-père paternel était administrateur des colonies, donc c'était une sorte de collabo. Et mon grand-père maternel était inspecteur des palmes académiques.
J'aime bien parce que vous dites ça sur tout le même ton, c'est très ironique.
Mais c'est leur vie, je veux dire, ils m'ont pas demandé mon avis. Et puis, c'est très compliqué ces choses-là. C'était un administrateur des colonies, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas le Cameroun. Il a choisi la nationalité camerounaise. Il a refusé la nationalité française. Donc ces histoires-là sont toujours beaucoup plus complexes qu'on ne veut le penser.
Votre histoire, vous vous sentez concerné par la partie directe, c'est-à-dire vos parents, on va dire,
oui.
Peut-être. Alors un mot de ce papa. Est-ce que vous vous souvenez de la bibliothèque ? Parce que moi ça m'intéresse, vous êtes romancière aujourd'hui, donc
oui,
qu'est-ce qu'il y avait
parfaitement.
Dans cette bibliothèque ?
Beaucoup de littérature classique française et britannique. Parce que c'était la bibliothèque de mes parents et que ma mère a fait une partie de ses études en Grande-Bretagne. Et donc essentiellement des classiques européens.
Donc pas d'auteur africain ?
Non, pas d'auteur noir du tout.
D'accord. Votre maman prof d'anglais ?
Oui.
Ouais. Sympa.
Une maman, quoi.
Oui, juste une maman.
Une maman pour une fille qui a aussi un tempérament particulier. J'ai été une adolescente particulièrement orageuse. Je pense que je ne vais pas faciliter la vie tous les jours. Une maman, elle est là. Elle est toujours là, elle nous aime.
Vous êtes née en 1973 à Douala, Léonora Mignano, dans un environnement culturel qui est bien méconnu de nous autres occidentaux, et que vous définiriez comment alors ?
Parler de Douala ou parler de moi, mon environnement culturel, parce que c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on était posé là à Douala, donc dans un environnement où vous n'avez pas besoin de sortir dans la rue pour entendre du Makossa. Le Makossa viendra à vous parce que la musique dans les bars proches est tonitruante, mais à la maison, c'est Charlie Mingus et c'est John Coltrane et je sais pas, Mahalia Jackson, donc des atmosphères très différentes, mais qui se mélangent harmonieusement. Mes sœurs et moi avons vécu en regardant Goldorak et Albator et en mangeant des plantains frits en même temps, et c'était naturel pour nous. C'était notre vie. Donc il y a des gens à qui ça semble étrange, mais nous avons toujours vécu dans ce métissage culturel.
Donc oui, dès le départ, c'est la connotation métissée quoi, oui. qui vous habite, c'est tout à fait. Vous vous envolez en France en 1991, vous avez 18 ans, c'est pour suivre vos études. Mm-hmm. Vous étiez partante pour la France ?
Non, je voulais pas venir. Mais c'était une espèce de tradition familiale. Et puis l'année 91 au Cameroun était une année de revendications estudiantines très très fortes qui ont été réprimées dans la violence, puisque à l'époque le gouvernement avait envoyé l'armée sur les campus. Donc moi j'étais une adolescente assez politisée, je voulais rester pour me battre. Et on a jugé que ça ne serait pas sage. Donc, on a décidé pour moi que je partirais. Et donc, je suis partie parce qu'à l'époque, à 18 ans, on était mineur au Cameroun. Et le temps d'être majeur, là, j'étais déjà en licence. Quand on arrive en licence, ma foi, on termine ses études. Mmh. Puis après, il y a la vie qui fait que...
Est-ce que la France est devenue rapidement votre France ?
Je ne dirais pas que la France est devenue ma France. Je ne sais pas si je me sens française. Je me sens très parisienne, ce qui n'est pas la même chose. Paris est un espace très cosmopolite qui convient tout à fait à une personne mélangée culturellement comme moi. C'est pas du tout pareil partout en France. Et à des endroits, moi je suis déjà allé dans des endroits où les gens n'avaient pas vu de noir de près, dans des classes où il n'y a pas d'enfants bronzés du tout, mmh. et des classes nombreuses, donc ça existe encore, donc c'est pas la France. Mais lorsque je rentre de voyage et que je reviens à Paris, oui, je reviens à la maison.
Léonora Miano, j'aime beaucoup ce prénom, vous savez ce que ça veut dire ou pas ?
Je sais que ma mère l'a choisi en pensant à Léo, le lion, elle voulait que je sois puissante et majestueuse.
Voilà. C'est réussi.
Donc
c'est...
j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont...
Et orageuse, ça c'était pas prévu, mais bon.
Ouais, mais ça va peut-être aussi. Avec. Maintenant je pense qu'elle est contente que je le sois aussi et il a fallu m'élever.
Vous avez souhaité nous emmener musicalement en Haïti aux côtés de Toto Bicente, qui est un mélange de chanteuse, de comédienne et qui a fait un travail tout à fait particulier sur la musique. Vous vouliez qu'on écoute Day, présentation.
Day signifie simplement deuil. C'est une chanson qui parle évidemment d'arrachement et du fait d'appartenir à cette diaspora africaine.
Deyo, m'appelle Deyo, Haïti, oi. Deyo, moi chante Deyo, Haïti, oi. Haïti, oi. Deyo, mon ouele, deyo.
Mes amis, oi.
Ouele, oi. Deyo, nap chante, deyo. Haïti, oi.
Ouele, oi. Haïti, chérie. Capote de la pumu, oi. Deyo, mwarele deyo, Haïti, oi. Deyo, map chante deyo, Haïti, oi. Haïti, Thomas.
Toto Bicente sur RFI dans le programme de Léonora Miano qui revient nous parler d'identité frontalière et de Barbara dans 3 minutes.